Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Merci d'être à l'écoute de Métropolez-vous. Bienvenue à vous tous, fidèles et nouveaux auditeurs de cette émission. Le stationnement à Toulouse et dans la métropole est souvent problématique ou délicat, une difficulté à laquelle nous sommes tous plus ou moins confrontés à partir du moment où nous utilisons une automobile pour nous déplacer. Au-delà de ces désagréments, il y en a un autre. Il n'est pas rare de devoir payer pour pouvoir se garer en ville, voire de payer une nouvelle fois lorsque nous avons écopé d'une amende pour dépassement du délai de stationnement. Je pense que beaucoup d'entre nous n'ont pas la moindre idée de l'utilisation de l'argent récolté dans ces circonstances d'ailleurs. Il se trouve qu'une réforme nationale du stationnement payant a eu lieu en 2018, ce qui nous donne l'occasion de lui consacrer un numéro de Métropolez-vous et d'en savoir plus sur la question. Réforme nationale du stationnement payant, qu'est-ce que ça change dans la métropole toulousaine ? Cette réforme nationale du stationnement payant concerne les collectivités, les métropoles entre autres, et l'élu toulousain et métropolitain tout désigné pour nous la présenter et en exposer, en expliquer les principes, c'est Jean-Michel Latte, premier adjoint maire de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole en charge des transports et déplacements, président de TICEO. Il nous fait l'amitié d'être l'invité de ce numéro et je l'en remercie. Bonjour et bienvenue à vous aussi, monsieur le vice-président. Alors, depuis quand cette réforme est-elle en vigueur et en quoi concerne-t-elle les métropoles, les grandes villes et celle de Toulouse en particulier?
Alors c'est une loi de 2014 qui a un nom un peu ésotérique, la loi MAPTAM, modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Mais on va voir que c'est pas que le nom qui est compliqué, c'est aussi le fond. Et donc cette loi a mis du temps à s'appliquer, les décrets d'application ont imposé cet article 63 à partir du 1er janvier 2018. Alors ça concerne les villes qui font du stationnement payant, il n'y a pas de référence aux métropoles, c'est la ville qui fait du stationnement payant qui est concernée.
Il y en a combien qui sont concernés en France ?
Environ 800, hein, c'est autour de cela, à la fois des villes, des métropoles, des agglomérations, il y a beaucoup de formes juridiques qui peuvent s'adapter à ce type de dispositif.
Et puisqu'on parle de la métropole Toulouse en particulier, est-ce que Toulouse est la seule ville concernée dans la métropole ?
Et sur la métropole, oui. Il y a des zones bleues dans les autres villes comme Blagnac ou Colomiers, mais il n'y a pas de stationnement payant.
Alors ça m'amène à vous poser une question plus personnelle. À quel titre, pour quelle délégation êtes-vous concerné au premier chef, en premier, pour répondre justement, qu'on pose des questions sur la réforme nationale du stationnement payant?
Alors c'est ma délégation municipale, enfin une de mes deux délégations municipales, vous le savez, j'ai d'un côté l'Occitan et de l'autre les déplacements. Et donc c'est ma délégation sur les déplacements puisque cette délégation intègre le stationnement.
D'ailleurs, ça m'amène à vous poser une autre question. L'argent qui est récolté par le stationnement payant, par les collectivités, il sert à quoi?
Alors, il y a beaucoup de fantasmes sur la question.
Je crois.
Et je reçois régulièrement des lettres de personnes qui ont été verbalisées et qui m'expliquent que je fais ça exprès pour financer le métro, des choses comme ça. J'aimerais bien avoir des ressources de ce niveau. En fait, on est sur des ressources qui sont entre 2 et 3 millions d'euros et qui sont réinvesties sur la circulation. C'est-à-dire que c'est ce qui paye le système de feu, les aménagements de voirie, etc. etc. On est sur de l'argent public qui revient au public. Hein, c'est pas de l'argent privé qui va au privé, c'est l'argent public qui revient au public.
Eh bien, vous parliez de feu. Merci d'avoir éclairé notre lanterne avec ces premières précisions. Nous entrerons encore un peu plus dans le détail dans quelques minutes. Pour l'instant, place à l'actualité métropolitaine grâce à Corinne Saint-Félix et son flash d'information hebdomadaire. Métropolez-vous, l'actu. Et pour commencer, un problème qui ne concerne pas que le territoire métropolitain, alors que la question des transports devient un vrai casse-tête avec les grèves successives de la SNCF, nombre d'entre vous retournent vers la voiture. Hélas, tous n'en ont pas, Corinne.
Effectivement, et sur le territoire de Toulouse Métropole, le service d'autopartage Cities, système de voiture en libre-service, permet de se déplacer en voiture en toute liberté. Bonne nouvelle donc, il compte 61 véhicules partagés par 2000 usagers. Le nouveau service IEA, lancé le 16 mai 2016, donne lui accès à 20 véhicules en libre-service dans le grand centre-ville de Toulouse. Alors dans la ville rose, le service Cities est assuré par la la société coopérative d'intérêt collectif Mobilib, fondée en 2008 par des habitants appelés Cities en 2013. Elle est soutenue par Toulouse Métropole, la ville de Toulouse et le SMTC Tisséo. Une aide de 22 000 euros a été accordée en février 2017 par Toulouse Métropole à Mobilib pour pérenniser l'activité. Au total, sur 3 ans, 150 000 euros ont été mobilisés en faveur de l'autopartage. Conçu comme une offre complémentaire dans l'offre des transports en commun, l'autopartage vise à réduire la part de la voiture en ville en proposant notamment aux citoyens de n'utiliser une voiture seulement quand ils en ont besoin et quand l'offre de transport en commun ne répond pas à leurs besoins. Pour les usagers, c'est aussi un gain économie à la clé puisqu'une location, tout frais compris, à savoir carburant ou encore assurance, permet d'économiser tous les frais d'utilisation et l'amortissement liés à la possession d'une voiture.
Et maintenant, un sujet qui revient de temps à autre dans l'actualité, les ondes électromagnétiques. Elles restent au cœur d'un débat de société et suscitent beaucoup de questions depuis la démocratisation du mobile et l'installation des antennes relais.
Installées en haut d'un immeuble, sur un château d'eau, sur des pylônes, les antennes font partie de notre environnement, à la ville comme à la campagne. Pour les réseaux mobiles, les antennes sont des émetteurs-récepteurs d'ondes radio qui acheminent le trafic sur un territoire donné. Une antenne relais a une capacité de transmission limitée, ne peut traiter qu'un certain nombre d'appels simultanés. C'est la raison pour laquelle, en ville notamment, la densité de population est grande, les antennes sont plus nombreuses qu'à la campagne. Si vous souhaitez savoir si une antenne relais est implantée près de chez vous, l'Agence nationale des fréquences tient à jour la cartographie des émetteurs directement accessibles au public sur le site www.cartoradio.fr. Notez que l'installation des antennes relais est également encadrée par une charte qui englobe les actes de la métropole et les opérateurs. Basée sur le volontariat, elle rassemble les bonnes pratiques à adopter pour l'installation des antennes. L'adhésion des communes à la charte est décidée par les conseils municipaux.
Depuis quelques années, on parle souvent de l'opposition et même de la séparation qui grandit entre métropole et territoires ruraux. Et pourtant, villes et campagnes peuvent et doivent avoir un avenir commun.
Oui, Jean-Luc Moudinque, président de Toulouse Métropole, et Jean-Marc Dumoulin, président de la communauté de communes du Val-Aigo, ont signé lundi à Villemur-sur-Tarn une déclaration d'intention commune en vue de conclure un contrat de partenariat entre les deux collectivités d'ici la fin de l'année 2018. Ce futur partenariat s'attachera à créer de nouvelles coopérations dans les domaines de la mobilité, de l'aménagement urbain et de l'habitat, du développement touristique et culturelle et de l'agriculture périurbaine. Toulouse Métropole en pointe déjà dans l'alliance des territoires promue par les pactes État-Métropole signés en 2017, a exprimé le souhait en Conseil métropolitain, c'était le 9 novembre dernier, de renforcer sa démarche en faveur de la solidarité entre les mondes urbains et ruraux et d'approfondir le dialogue avec ces territoires voisins. Cette démarche s'est traduite par un premier contrat de réciprocité signé avec le pays des portes de Gascogne, c'était en juillet 2017.
Alors voilà, Jean-Michel Latte, le président de Tisséo et vice-président de Toulouse Métropole en charge des transports et déplacements, a sans doute des compléments à apporter sur la première information de ce flash, celle qui concerne Cities, ce service d'autopartage de voitures en libre-service.
Alors c'est un service auquel je suis très attaché. Tisséo a pris des parts sociales dans cette entreprise coopérative. Ce sont à la fois des gens qui sont investis dans leur mission, parce qu'ils considèrent ça comme une mission, extrêmement efficace. Ils sont dans une logique d'intérêt général, pas du tout commercial. Et je crois que c'est l'avenir. On a aujourd'hui des jeunes couples qui renoncent à leur deuxième voiture pour s'abonner à Cities. Je crois que c'est une bonne façon de voir les choses. La notion de possession du véhicule est en train de se dissoudre au profit d'un usage du véhicule. Et Cities est au cœur du dispositif.
Alors comme je sais que vous êtes aussi un élu qui est sensible au devenir des territoires ruraux, je pense que vous aurez un mot à nous dire aussi sur le contrat de partenariat entre Toulouse Métropole et la communauté de communes du Val d'Aigo.
Oui, c'est le deuxième contrat puisqu'il y a eu celui avec les côtes de Gascogne auparavant. C'est très important qu'il y ait interaction entre une métropole comme la nôtre et les structures qui sont à proximité. En particulier, moi je pense souvent à tout ce qui est nourriture, circuit court, et je crois qu'il y a des vrais partenariats à mettre en place et à promouvoir.
Mais merci pour ces informations complémentaires. Nous revenons maintenant au sujet de cette émission consacrée, je le rappelle, à la réforme nationale du stationnement payant et aux changements qu'elle implique dans la métropole toulousaine.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Métropole et vous, la suite avec notre invité du jour, Jean-Michel Latte, premier adjoint maire de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole en charge des transports et des déplacements, président de Tisséo. Et la première question qu'on peut se poser à propos de cette réforme, c'est la raison pour laquelle il était décidé d'organiser ce qu'on appelle la dépénalisation et la décentralisation du stationnement payant, en donnant désormais sa maîtrise aux collectivités. Quels sont les objectifs et l'intérêt de cette réforme pour l'État qui s'est donc désengagé et qui a refilé, excusez-moi du terme, le bébé aux collectivités?
Alors, c'est une loi de décentralisation, de transfert de compétences de l'État vers les collectivités. Pour cela, il fallait que l'amende ne soit plus une amende pénale, parce que le pénal reste de la compétence de l'État. On fait un peu de droit quand on se penche sur cette loi. La loi prévoit que désormais les communes assumeront le paiement de ce qui n'est plus une amende, mais on verra que c'est un peu la même chose. C'est un forfait de post-stationnement. C'est quoi un forfait de post-stationnement? Mais c'est une location d'espace public, tout simplement. Vous êtes sur un espace public quand vous stationnez, vous allez payer une location d'usage de cet espace public. Mais enfin, on en discutait tout à l'heure, l'usager, il se retrouve à la fin avec une somme à payer. On l'appelle FPS, on l'appelle PV, ça reste une somme à payer.
Et qui sort de sa poche.
Qui sort de sa poche. L'État avait un très mauvais rendement sur ce dispositif. Moins de 20% des amendes étaient recouvrées.
En particulier à Toulouse, je crois.
À Toulouse, à Paris, c'était 9%. Il y a des villes qui faisaient mieux. Voilà, nous, on était à 17%, je crois. Donc, on était en dessous de la moyenne nationale. Donc, c'était pas brillant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait une sorte de prime aux fraudeurs, finalement. Parce que celui qui payait, lui, il restait avec son écho. Les autres, par contre, passaient entre les gouttes. Donc, un des enjeux, c'est d'améliorer le dispositif en allant plus près des gens, c'est-à-dire en se situant au niveau des villes. À chaque ville, ensuite, de mettre en place son propre dispositif.
Voilà, alors c'est la question qui venait derrière. Qu'est-ce que ça implique pour les élus des collectivités concernées, notamment en termes de gestion de l'espace urbain et de la mobilité urbaine?
Alors d'abord, ce n'est pas tout l'espace urbain. C'est uniquement celui qui est en stationnement réglementé, c'est-à-dire les eurodateurs, pour être clair. Celui qui se gare sur un passage clouté ou sur une place handicapée ou sur un trottoir, lui, il va être encore sous le système ancien du PV, avec des amendes qui vont jusqu'à 135 euros, par exemple, sur une place handicapée. Mais ça reste une amende pénale d'État. Donc nous, on est concernés uniquement par le système de gestion du stationnement autour des aérodateurs, sur des aérodateurs, sur des places qui sont faites pour cela. Donc il a fallu à la fois organiser le système de surveillance, ça c'est mon collègue Olivier Arsac qui s'en charge, avec des mutations technologiques dont on reparlera peut-être. Il a fallu déterminer le montant de l'amende, puisque c'est désormais nous qui le faisons, ou du FPS, pour rester dans les termes de la loi.
Et puis, je reprécise pour les gens, FPS, c'est le forfait post-stationnement.
Voilà, exactement.
Que ce soit noté une bonne fois pour toutes.
Ouf, on l'oublie vite. Oui. Et alors, il faut aussi gérer les recours. La personne qui considère qu'elle a été injustement verbalisée. Voilà. Et donc, on a été amené à traiter ces trois points. Le point qui a été sans doute un des plus délicats, c'est le niveau de l'amende. Avec l'ancien système, grosso modo, sur les 17 euros de l'amende pénale, la ville de Toulouse récupérait autour de 5 euros. Et donc, on a dit, il faut qu'on reste dans la même marge avec des charges supplémentaires. Et donc, on est sur un prix de 30 euros qui est le prix moyen des grandes villes de France. Si vous allez à Lyon, par exemple, c'est 70 euros, pour vous donner une mesure. Donc nous, on a choisi de se placer à ce niveau de 30 euros qui nous permet de rester sur les mêmes retours financiers qu'auparavant.
30 euros à comparer aux 17 donc, qui étaient avant la norme nationale.
17 gérés par l'État.
Gérés par l'État directement, mais il y avait déjà 5 euros donc, qui revenaient aux collectivités.
À peu près.
Et là, en passant 30 euros, ce sera la même chose.
À peu près, parce qu'il faut qu'on s'occupe désormais, nous, de la surveillance, des recours, etc.
Ce n'était pas le cas auparavant.
Voilà.
Donc là, on a fait le tour des grands principes de la réforme.
Exactement.
Qu'est-ce que ça change pour l'usager concrètement au-delà de ce que vous avez déjà énoncé?
Alors l'usager, il est face, il faut le dire, à un risque de contrôle plus important et un coût qui est, même à Toulouse, plus important puisqu'il passe de 17 euros à 30 euros. Alors c'est très compliqué, il y a quelque chose qui est incompréhensible, c'est qu'entre 2 et 3 heures, on a une montée en puissance de l'amende parce que la loi l'impose. Donc, vous restez 2h20, vous payez 20 euros, 26, et puis, dès que vous atteignez la troisième heure, et les heures suivantes, vous êtes à 30 euros. Voilà, c'est la progressivité introduite dans la loi est très problématique à mettre en œuvre pour les communes. Il n'empêche que la personne sait désormais à quoi elle s'attend, elle est sur un contrôle renforcé, sur un taux qui est majoré, mais On peut voir les choses de deux façons. On peut se focaliser sur le coût, on peut se focaliser sur l'objectif. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de faire de la rotation, de rendre le centre-ville toujours accessible. Il y a, en Haute-Garonne, 1000 voitures de plus chaque mois.
Et oui.
1000 voitures de plus chaque mois. Oui. Et donc, les gens...
Ça, c'est par l'évolution de la population, du nombre d'habitants.
Voilà. Exactement. On est de la métropole qui accueille le plus de personnes, 15 000 par an. C'est considérable.
C'est plus de voitures aussi.
Et voilà. Et donc, il y a 1000 voitures de plus par mois dans notre département.
Donc ça veut dire 12 000 par an, c'est
exactement
ce que vous êtes en train de
me dire. Et alors, ce que les gens mesurent mal, c'est que notre organisation du stationnement, elle est faite pour quoi? Elle est faite pour gérer l'espace. Et un espace qui devient de plus en plus étroit face à la masse des voitures. C'est-à-dire, si on ne fait rien, si on laisse tout en l'état, on aura une voiture ventouse qui sera stable sur le site. Et puis... de plus en plus de voitures qui ne trouveront pas de place. D'où l'enjeu de l'organisation du stationnement à Toulouse.
Et qui a des conséquences aussi économiques, parce que quand on ne peut pas se garer, pour avoir l'accès au commerce, pour les commerçants, il y a des conséquences. Il y a des conséquences environnementales.
Bien sûr.
Plus on tourne pour trouver une place, plus on pollue.
Exactement. Exactement. Alors sur le plan économique, par exemple, on a une autre formule sur ces places-là, c'est le stationnement commerçant, où la personne a 30 minutes de gratuité et un... Ensuite, ça a permis de sortir les voitures ventouses des axes commerçants. J'ai rencontré assez récemment les commerçants de l'avenue du Muret, où ça vient d'être installé, de Saint-Exupéry, où c'est en place depuis 2 ans. Tous m'ont dit qu'ils avaient une hausse du chiffre d'affaires parce que la rotation devant leur commerce était bien meilleure.
Oui, ça paraît tout à fait logique. Alors, on a parlé de l'évolution des tarifs, des amendes, du forfait post-stationnement. Est-ce que les tarifs de stationnement proprement dit, eux, vont évoluer suite à la réforme?
Alors, nous, on est sur la même situation qu'auparavant. On n'a pas touché au système. C'est-à-dire qu'à Toulouse, quand vous êtes 2 heures sur l'espace en cause, vous payez 3 euros. C'était comme ça avant, c'est comme ça après. On reste sur ce taux-là. Notre enjeu n'était pas de cibler ceux qui payent, mais de cibler ceux qui ne payent pas. C'est voilà. Pas la même chose.
Oui, parce que je voulais préciser les choses. Il ne s'agit pas de profiter de la réforme pour que les difficultés de stationnement augmentent et que du coup, les amendes aussi, le nombre d'amendes augmente.
On aurait pu augmenter les 2 heures. On n'a pas voulu le faire. On a voulu rester sur le système ancien.
Alors, en termes de répression, je ne sais pas si c'est le mot, de surveillance en tout cas, est-ce que le système va changer?
Il va changer à cause des évolutions technologiques. Aujourd'hui, on a des outils qui se mettent en place, qui sont expérimentaux ou qui vont devenir des systèmes de base, qui permettent d'améliorer le contrôle. L'exemple type, ce sont les voitures avec système embarqué qui potentiellement vont passer dans une rue et en l'espace de 15 secondes détecter l'ensemble des contrevenants de la rue en cause. Donc on est sur un système qui s'automatise. Il y aura sans doute un peu moins de présence humaine sur le contrôle. On préfère, nous, que les agents soient sur la surveillance des sites et des choses plus utiles pour nous que la surveillance des véhicules. Donc, on pense, et Olivier Arsac, mon collègue, travaille beaucoup sur la question, basculer sur des logiques technologiques qui nous permettront à la fois d'améliorer le contrôle et d'éviter d'utiliser des personnes pour ces tâches qui ne nous semblent pas indispensables.
Donc, ça veut dire qu'il y aura des voitures de la police municipale qui auront ce système embarqué, qui vont patrouiller dans les rues
exactement.
De Toulouse, un peu partout.
Et alors, il y a un objectif précis, c'est qu'aujourd'hui, si vous garez dans un endroit sans payer, votre risque, c'est d'être contrôlé une fois tous les 4 jours à peu près. L'enjeu qui est fixé par la ville de Toulouse, c'est qu'on ait un contrôle par jour de chaque place. Voilà, c'est une amélioration et on va recréer de la rotation. On voit que quand la surveillance est forte, l'espace se dégage. On a des systèmes aussi qui marchent très bien, comme le stationnement résident. Quand on arrive autour de chez vous, de votre radio, on s'aperçoit que ça marche.
Oui, ça veut dire que, comme beaucoup parmi les automobilistes toulousains, on se garait parfois dans certaines rues à certaines heures, disant là, on risque rien, ça va être fini. Ça, c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
C'est ce que je vous dis.
Bon, j'espère que tout le monde aura bien noté. Cela dit, je ne sais pas quand ce sera effectif, ce nouveau système, mais apparemment, ça pourrait l'être assez rapidement.
Oui, on a déjà fait des expérimentations à Toulouse. Il y a des villes qui sont en train de le mettre en œuvre. Voilà, on est sur des choix d'arbitrage.
Puisqu'on parle justement de ces problèmes de stationnement à Toulouse et des conséquences, donc des amendes si on est mal garé ou si on se gare trop longtemps à un certain endroit, bon, ça va en augmentant puisque la population augmente. Quelles sont les solutions envisagées aujourd'hui pour régler ce problème? Est-ce que la solution, c'est de faire en sorte que les gens utilisent de moins en moins leur voiture pour venir en centre-ville, donc de développer les transports en commun? Ou est-ce que c'est la solution, ça peut être aussi d'augmenter tout simplement les places de parking?
Alors, j'allais dire, on est sur des multi-solutions. On n'est pas sur une seule solution. On est en train de créer un grand parking au haut des allées Jean Jaurès, qui tient compte du développement potentiel de la gare et du projet autour de la gare. Donc on n'exclut pas la création de nouveaux espaces stationnés en centre-ville. Pour autant, on ne les privilégie pas parce qu'on sait que s'il fallait courir derrière l'augmentation des voitures, on perdrait. 1000 voitures par mois, on ne va pas créer 1000 places supplémentaires à Toulouse par mois, c'est impossible. Donc on est sur plusieurs logiques, j'allais dire plusieurs fers au feu, en particulier le développement des transports en commun. On a parlé hier en conseil syndical de Tisséo de l'extension de la ligne A, avec la capacité de passer de 230 000 jours à 400 000 jours en 2019. On a parlé des nouveaux bus linéaux qui vont venir de toutes les directions de la métropole. On a aujourd'hui deux systèmes d'usage du vélo en libre-service. Il y avait le système de co, on a maintenant un deuxième système différent qui vient compléter le précédent. On a l'autopartage Cities, j'y tiens beaucoup. Je crois que ça, c'est une solution remarquable. Plutôt que d'avoir 10 véhicules, on a un pour 10 personnes, ce qui est vraiment un bon usage. Quand on calcule le temps qu'on prend à utiliser son véhicule, on s'aperçoit que c'est très minime par rapport à l'usage réel. Donc on est sur des multi-solutions. Et ce sont ces multi-solutions qui, je l'espère, nous permettront d'améliorer la vie des gens.
Alors ça, c'est un plan global. Il y a un autre plan global, le plan local de stationnement, le PLS, qui je crois existe depuis 2005,
oui.
Qui est métropolitain.
Oui, oui, qu'il est devenu.
Qui est devenu métropolitain. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot et comment s'est intégré tout ça dans ce plan?
Alors, en 2005, je m'en souviens d'autant plus que j'étais déjà en fonction, et c'est moi qui ai mis en place ce dispositif-là. Dans la douleur, parce qu'en 2005, on avait ciblé Saint-Aubin comme premier site, et j'ai dû faire face à 200 personnes très en colère, parce qu'elles n'avaient pas compris le système, et qui m'indiquaient qu'elles ne voulaient pas payer pour stationner, que c'était... voilà. Et puis, donc, j'ai reculé, mais le quartier voisin est venu me voir, les Chalets, en disant, ben nous, on veut bien être à l'expérimentation.
Testé.
Et donc, c'est les Chalets qui, en 2005, ont été les premiers à mettre en place ce système, qui consiste à faire payer l'ensemble du stationnement sur un quartier, mais avec une faible redevance pour le résident et, j'allais dire, plein pot pour celui qui vient de manière occasionnelle. Et ce qui s'est passé au chalet a fait tache d'huile, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que l'espace se libérait. Et la personne qui, en rentrant chez elle, n'arrivait plus à trouver de place, trouve immédiatement de l'espace. Et donc, on a fait en tache d'huile, c'est-à-dire petit à petit, on a étendu, on est allé au-delà des chalets. Il y a aujourd'hui une trentaine de quartiers qui sont équipés. Le dernier, c'était le Busca. Quand on a eu fini l'hypercentre, j'ai reçu... les habitants de Saint-Aubin qui m'ont dit « Bon, finalement, on aimerait bien, nous aussi, bénéficier du stationnement résidence, qui est le cas aujourd'hui. » On a un système qui permet de faire partir les voitures ventouses. C'est l'enjeu. Système qu'on généralise, parce que chez Tisséo, par exemple, on s'est aperçu que nos parkings d'accueil des usagers, ils étaient remplis de voitures qui ne servaient pas aux usagers. C'était devenu le parking secondaire de l'aéroport. On se garait dans un parking Tisséo, et puis pendant 3 semaines, on partait sur les îles, et quand on revenait, on avait la voiture en l'état. Bon, on a mis en place un contrôle, pourquoi? Parce qu'on veut que ce soit l'usager des transports en commun, et lui seul, qui utilise ce type de parking.
Il y a quelque temps, j'avais reçu ici un représentant de l'Automobile Club du Midi qui me disait que lui pensait qu'on allait vers une exclusion de la voiture dans le centre-ville de Toulouse. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut craindre ça?
Alors,
ça dépend de quel côté on se place.
Une réduction de la voiture, certainement. Une remise en cause de la voiture en ville, certainement pas. Il y a des exemples précis qui le montrent. Dans l'organisation du stationnement, on a aujourd'hui des formules spécifiques au monde médical. La possibilité pour un médecin d'accéder en ville au centre-ville. Au monde artisanal, la possibilité pour un artisan d'installer son véhicule de travail à proximité du chantier. Et ça, c'est quoi? C'est la reconnaissance du fait que la voiture permet certaines fonctionnalités que l'on ne veut pas remettre en cause. On veut que le monde médical puisse atteindre le centre de Toulouse. On veut que le monde artisanal le fasse. On veut que les personnes handicapées continuent à être à proximité de leur domicile. On veut que les familles nombreuses puissent continuer à vivre dans le centre-ville. Donc, il est hors de question de parler d'exclusion de la voiture en ville. Par contre, on est face à une montée en puissance des véhicules par rapport à l'espace public qu'il faut gérer.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Michel Latte. Nous arrivons au terme de ce numéro de Métropole et vous. Merci d'en avoir été l'invité. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je rappelle que vous enseignez aussi le droit à l'université.
Le droit du travail. Le droit du travail.
Et nous avions bien besoin des explications et de la clarté d'un professeur pour bien comprendre tous les tenants et aboutissants de la réforme nationale du stationnement payant et puis les conséquences, évidemment, pour chacun d'entre nous. Cette loi est donc en vigueur depuis le 1er janvier 2018, y compris à Toulouse. J'espère que les choses sont claires maintenant pour les auditeurs de cette émission et que vous savez à quoi vous en tenir en matière de stationnement sur notre territoire. Si vous voulez avoir plus d'informations ou des détails supplémentaires, vous pouvez consulter le site www.collectivité-locale.gouv.fr à la rubrique compétences, puis à la catégorie logement, politique de la ville et urbanisme. Vous y trouverez des détails sur la réforme du stationnement payant. Et pour savoir ce qu'il en est à Toulouse, je vous invite à vous connecter au site www.toulouse.fr à la catégorie transport, mobilité, où vous trouverez également des explications sur ce qui change à Toulouse concernant cette réforme. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, Métropole et vous bien.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.